France Inter.
Je l'attendais attablé à la terrasse, hiver comme été, et j'adorais la voir arriver avec le capuchon de son sweatshirt sur la tête et ses belles dents blanches découvertes par son sourire amical. Elle aimait ce café parce qu'on y passait de la bonne musique en fond sonore, de la musique new-yorkaise de différentes périodes, et elle fredonnait des bouts de chansons. Son chanteur préféré, Lou Reed. Elle ne tarissait pas d'anecdotes et de citations sur lui. Bernard Comment est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son nouveau livre intitulé « Neptune Avenue ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique et deviner avec qui.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do. Thank you.
L'héroïne de votre dernier roman, Bernard Coman, s'appelle Bijou. Et Bijou adore Lou Reed, comme nous tous, nous aimons Lou Reed, et particulièrement cette chanson entêtante qui va nous rester dans la tête toute la soirée et peut-être une partie de la nuit. Mais votre narrateur se pose une question dans les années 2000. Il commence à essayer de savoir quelle est la signification de certaines paroles de cette chanson. Et là, il a une grande surprise.
Oui, ça, ça part un peu d'une expérience personnelle, mais qui est sans doute assez largement partagée. C'est que souvent, on entend la musique, mais on n'écoute pas beaucoup les paroles. Il y a comme ça quelques phrases, mais on a de la peine à se concentrer sur les paroles. Et c'est le cas de, au fond, du succès un peu paradoxal qui a été celui de cette chanson, parce que quand on écoute, quand on lit le texte, elle est extrêmement rude, puisque bon, c'est beaucoup sur la transsexualité. Le transgenre, c'est extraordinairement audacieux pour l'époque. Hein. On est au début des années 70, c'est l'album qui s'appelle Transformer. Et comme le nom l'indique, c'est justement la transformation des sexes. Et il y a cette espèce de cristal de poésie absolument extraordinaire qui est la formule « and he was she » et « il est elle ». Et toute cette transformation se donne en trois mots, qui est une invention absolument géniale, mais aussi, voilà, il y a beaucoup de sexualité dans les chansons de Lou Reed et dans les chansons de cet album. Et c'est vrai que, pour avoir été l'éditeur des textes dans la traduction française, eh bien, c'est un extraordinaire poète qui a été en avance sur son temps et qui est allé voir. Évidemment, il est allé voir du côté de la drogue, il est allé voir du côté de cette sexualité. La littérature était déjà un peu allée là, mais l'univers de la musique, par sa popularité plus grande, par sa diffusion notamment sur les radios, eh bien, ça pose d'autres limites à l'expression. Et lui a franchi toutes ces limites avec une audace qui a passé un peu inaperçu à l'époque, heureusement, parce que sans doute il y aurait eu un peu plus de censure de la part des directions de chaîne.
De la langue, il est beaucoup question, de la perte de notre langue à l'intérieur de ce nouveau roman qui s'intitule Neptune Avenue, qui se déroule non pas au cœur de Manhattan, mais justement dans un endroit un peu paumé, un endroit où ne vont jamais les touristes français, un endroit dont on peut voir la skyline se déployer, un endroit au bord de la mer, un endroit un peu friche abandonnée, où le romantisme peut affleurer à chaque coin de rue, puisque ce sont des immigrés qui ont décidé d'y faire souche. Mais cette langue qui est universelle, qui maintenant s'appelle l'anglais, elle est déployée différemment à l'intérieur de votre roman parce que cette langue, elle vous tient depuis longtemps, Bernard Coman. Vous êtes à la fois écrivain, poète, traducteur et vous avez été à l'école de Roland Barthes, vous avez été l'élève de Roland Barthes. C'est d'ailleurs comme ça que moi je vous ai connu en vous lisant la première fois, en lisant un livre qui s'intitulait « Roland Barthes vers le neutre ». Vous y déceliez ce qu'il pouvait y avoir de neutre dans la langue. Eh bien, je vous propose d'écouter Roland Barthes, qui va tenter de définir ce que ça veut dire le mot « littérature ». C'est une archivina du 21 février 1977.
Il faut voir le mot un peu. Le mot « littérature », c'est un mot relativement récent. Disons qu'au point de vue de l'histoire des mots, c'est un mot qui date peut-être tout au plus de la fin du XVIIIe siècle. Et avant, on ne parlait pas de littérature, on parlait de lettres, de belles lettres, d'humanité, etc. Alors, il s'est trouvé que, à travers tout le XIXe siècle, et renfloué évidemment par des valeurs qu'on appelle maintenant très classiquement une idéologie bourgeoise, enfin soutenue par la société et la démocratie bourgeoise, le mot littérature est devenu vraiment un mot pourvu d'une majuscule, dans la mesure où c'est devenu, pendant très longtemps et jusqu'à il n'y a pas longtemps, un mot valeur. C'est un mot qui avait un pouvoir de valeur, et qui était très lié d'ailleurs à tout un appareil institutionnel, soit à travers des académies ou des groupements, pour ainsi dire, professionnels d'écrivains, soit à travers l'enseignement de la littérature, très important dans l'enseignement secondaire français, soit à travers tout simplement le commerce. Et c'est justement parce que le mot littérature s'est trouvé en quelque sorte compromis un peu dans cet appareil institutionnel assez marqué, sinon politiquement, tout au moins idéologiquement, qu'on l'emploie maintenant avec méfiance. On a une espèce de sentiment honteux vis-à-vis de la littérature, et on parle plutôt maintenant d'écriture ou de texte, la littérature ayant été emportée dans la critique de l'humanisme. Maintenant, on peut se demander si la littérature étant descendue en tant que mot tellement bas dans l'échelle des valeurs, on ne peut pas en quelque sorte le reprendre. Et ça serait un petit peu l'idée que j'aurais. L'histoire se charge toujours de reprendre les choses, mais disons à une autre place, selon un mouvement en spirale. Et j'aimerais bien qu'au fond, qu'on reprenne le mot littérature dans un mouvement un peu spiraloïde et qu'on revienne à la littérature.
Alors je pense que cet archive que nous venons d'entendre a dû être enregistré au moment de la publication d'un texte de Roland Barthes célèbre aujourd'hui qui s'intitulait « Qu'est-ce que la littérature ?». Vous dites dans ce livre, Bernard Comment, que c'est ainsi que vous avez commencé à lire Roland Barthes, par ce livre « Qu'est-ce que la littérature ?» qui ne vous a pas ébloui. Vous étiez lycéen à l'époque et en fait, votre amour de Roland Barthes a commencé avec le degré zéro de l'écriture.
Oui, c'est vrai. Je peux rendre d'ailleurs hommage à mon professeur de lycée qui m'a donné une passion et donc m'a fait le plus beau cadeau qu'on puisse faire dans la vie. C'est-à-dire que par son incitation, par son enthousiasme, il m'a vraiment ouvert les voies non seulement de la littérature, mais de la réflexion sur la littérature. C'est-à-dire d'essayer de comprendre où résidait la magie. Et de savoir aussi que on ne peut pas tout comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une part mystérieuse, il y a une part d'énigme qui continue d'agir derrière la compréhension des mécanismes de production du beau, par exemple. Et c'est vrai que le degré zéro de l'écriture a été pour moi une lecture extrêmement stimulante et même séminale, dans la mesure où ce professeur de lycée, lui était sartrien et je lui reprochais un peu justement cette conception sartrienne d'une littérature un peu comme porteuse de messages ou de pensées. Et il me semblait que tout se jouait au niveau directement de la langue. Et un jour, il m'a posé le degré zéro de l'écriture sur mon pupitre pendant un cours et il m'a dit « Je pense que tu trouveras des arguments pour tes positions. » Et effectivement, quand j'ai lu le degré zéro de l'écriture, j'avais l'impression d'avoir très clairement formulé les choses que, confusément, à l'âge adolescent qui était le mien, que je cherchais dans ma tête. Et là, elles étaient magnifiquement formulées.
Et quand et de quelle manière avez-vous basculé vous-même vers l'écriture ?
Alors, vers l'écriture de fiction, c'est plus tardif parce que, de fait, la découverte de Barthes, mais aussi d'autres à l'époque, m'orientait dans un premier temps plutôt vers la théorie. Mon rêve, quand j'avais 18 ans, c'était d'être un jour professeur au Collège de France.
Il n'est pas trop tard, Bernard Comment.
Oui, mais enfin, j'en ai pas vraiment pris le chemin. Et plus tard, une fois que je me suis installé en Toscane, ça a été un peu une sorte de d'eureka. C'est-à-dire, je sortais d'un dîner chez un vieil écrivain florentin très fascinant, qui était porteur d'une mémoire impressionnante, qui avait connu Gadda Montale.
Qui s'appelait comment, ce monsieur?
Qui s'appelait Piero Santi. Et en rentrant dans ma petite Fiat 500, tout d'un coup, j'ai eu cette idée, cette espèce de vision de quelqu'un de mon âge, ou à peu près, qui se prendrait à l'illusion qu'il pourrait hériter d'une mémoire. Et ce motif fantastique, tout de suite, j'ai compris que j'avais envie de lui réserver un traitement hyper réaliste. Et au fond, je crois que beaucoup de mon écriture est née justement de ce moment-là. C'est-à-dire prendre des situations extrêmes ou des situations improbables, mais d'en tirer toutes les conséquences pratiques, réelles et quotidiennes.
Alors, vos premiers livres ont été publiés au tout début des années 90. Il y a eu L'ombre de mémoire, il y a eu Aller et venu, il y a eu Florence, retour, car vous êtes un amoureux de l'Italie. Vous avez beaucoup vécu en Italie, vous parlez fluently la langue italienne. Vous êtes d'ailleurs un grand traducteur de l'italien. Et puis, il y a eu sur votre parcours d'un jeune homme qui désirait écrire, se faire publier, il y a eu un éditeur. Je vous propose de l'écouter. Il va parler de ce que ça signifie pour lui l'acte de publier un livre. C'est une archive INA du 25 novembre 2005. Nous écoutons la voix de Christian Bourgois.
Publier, c'est rendre un texte public. Bon, par conséquent, c'est de participer à la vie publique. C'est... Toute publication est d'une certaine manière un acte politique. Bon, enfin, je vais quand même pas revenir au vocabulaire des années 70. On prétendait que tout était politique. Mais enfin, je veux dire, toute publication a quand même, d'une certaine manière, une répercussion politique. Ben, moi, je tiens quand même à dire que je n'ai jamais été un éditeur aussi militant et aussi engagé que François Maspero, même si, dans les années 70, je me suis, en quelque sorte, pendant quelques années, substitué à François Maspero, qui avait ralenti ses publications, qui avait même disparu de la scène éditoriale pendant un certain temps, et finalement, des directeurs de collection, des conseillers de François Maspero, qui est un éditeur dont je tiens à saluer, parce que j'ai une très très grande admiration pour François Maspero et pour ce qu'il a fait avec tant de difficultés que moi je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu du tout les mêmes difficultés qu'il a fait dans les années 60. Bon. Alors, c'est vrai que j'ai été un éditeur dont les textes étaient très engagés, donc il passait pour un éditeur très engagé, mais j'étais pas un éditeur militant appartenant à comme François ou comme à une certaine mouvance politique. Bon, et je me suis même efforcé à l'époque de collectionner dans 18 surtout des textes très contradictoires, de sensibilités très opposées. Je passais mon temps, enfin je passais pas mon temps, mais je recevais souvent des auteurs ou directeurs de collection ou conseillers très en colère parce que je venais de publier un livre qui leur déplaisait profondément et je me suis amusé quelquefois à prendre une page, à dessiner des noms, à mettre des flèches et à dire voilà, tel texte, tel auteur veut que je ne publie pas tel auteur, qui veut que je ne publie pas tel auteur et à la fin il n'y aurait plus une seule publication si j'écoutais les uns les autres, donc je n'écoute personne.
Alors nous venons d'entendre la voix de Christian Bourgois, vous avez publié plus de 8 livres avec Christian Bourgois, qui est devenu un ami. Vous avez travaillé avec Christian Bourgois. Il vient de dire qu'il n'était pas un éditeur militant. On peut dire que choisir certains auteurs et les publier constitue de facto un acte de militantisme intellectuel, mais pas idéologique au sens politique.
Oui, c'est ça. C'est ce qui différencie justement du militant. Je pense qu'il était politique, mais pas militant. Et c'est vrai que... tout choix de livre dessine une conviction et une certaine croyance en la littérature. Christian était assez paradoxal parce que il parlait pas de langue étrangère et il était réputé comme le plus grand éditeur de littérature étrangère. Et d'ailleurs, je me souviens que en 1989. J'ai rencontré Antonio Tabucchi. Je venais de terminer mon premier manuscrit et j'étais sur le point de l'envoyer à 2 ou 3 maisons. Et il m'avait dit, on se connaissait à peine, il m'avait dit vous devriez aussi l'envoyer à Christian Bourgois. Et je lui avais dit mais Christian Bourgois il fait de la littérature étrangère. Et Antonio m'avait répondu mais vous êtes peut-être plus étranger que vous ne croyez. Et ce conseil. Et cette phrase m'est restée très longtemps en tête, parce que ce qu'il me renvoyait, c'était l'idée que on vient de quelque part, qu'on est constitué par une sorte de petite valise fondamentale où il y a votre enfance, votre première enfance, votre adolescence, et que ça définit une appartenance. Et pour moi, ce « ça », c'était mon enfance et mon adolescence en Suisse.
Eh ben cette petite valise, j'ai l'impression qu'elle se trouve par petits fragments à l'intérieur de votre dernier texte, Neptune Avenue. Votre livre est très cadencé, les chapitres sont extrêmement courts, il se déploie géographiquement par-delà 2 continents, et en même temps, il s'arrime à des souvenirs qui, à mon avis, ressemblent étrangement à ce que vous avez peut-être vécu dans votre prime enfance, Bernard Comment. Avez-vous vécu avec des vaches et savez-vous traire les vaches ?
Je ne sais pas les traire ou très mal, mais j'ai vécu à la proximité des vaches, effectivement. Vous avez raison, ce texte est habité par des souvenirs personnels, mais de toute façon, je crois que même si on invente des personnages, même si on invente des situations, le véritable investissement qui fait que vous arrivez à toucher à quelque chose de profond, c'est parce que vous faites sortir quelque chose qui est profondément ancré en vous. Et ce quelque chose, il est évidemment aussi fait de souvenirs anciens et même parfois de souvenirs hérités.
C'est-à-dire ?
Ben, par exemple, là, dans ce livre, je me suis rendu compte à un moment donné que j'étais en train d'annexer la mémoire de ma mère sur sa propre mère. Ma grand-mère, donc, que j'ai à peine connue, et qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que dans ma vie, New York avait pris une grande importance, et que précisément, cette grand-mère, au tout début du XXe siècle, vers 1900, 1901 sans doute, est née de 8 ou 9 autres enfants, donc sachant y faire avec les petits, s'était fait embaucher au Havre pour faire la traversée. Elle avait été engagée par une famille de l'Upper East Side à New York, et donnant satisfaction, elle avait été engagée, elle était restée là-bas à New York. Et à un moment donné, où j'ai choisi précisément New York pour écrire ce roman, eh bien, je me suis dit que c'était intéressant d'annexer ou de faire ressortir cette mémoire ancienne à travers les souvenirs que j'ai recueillis auprès de ma propre mère.
À l'intérieur de vos romans, Bernard Comment, il y a toujours une connotation philosophique, une méditation sur notre contemporanéité. Et dans celui-ci, il y a une très forte thématique sur le temps. Alors le temps déployé dans plusieurs acceptions. D'abord, cette fameuse panne d'électricité qui a immobilisé New York dans les années 60. Ce personnage principal qui est immobile dans son corps parce qu'il est en train de vieillir, qui peut plus bouger et qu'il est immobilisé dans son temps à lui. Il aimerait bien que ça soit le temps de sa jeunesse, hélas, révolue. Et puis, il y a le temps aussi de ses amours et il y a le temps aussi de cette jeunesse qui est là, de l'autre côté de la cloison, de cet appartement, en haut de cet immeuble où il vit justement sur Neptune Avenue. Tous ces temps-là cohabitent de manière assez vénéneuse, comme si le temps était notre obsession à nous aujourd'hui, en 2019, mais comme si aussi on était saturé par ce temps qui passait et sur lequel on ne pouvait plus penser. La littérature peut-elle nous aider à penser ce temps qui nous échappe en permanence ?
Oui, je pense que la littérature est le lieu du temps. Et l'expérience toujours renouvelée, incessamment renouvelée, du temps et de tous les artifices qu'on peut utiliser pour le faire revenir, pour le compliquer. Au fond, on vit dans une espèce de conception linéaire du temps. On croit que les choses se suivent. Mais précisément, la littérature, c'est une façon de remuer cette patte du temps et de faire coïncider des moments du passé avec des moments du présent et des moments du futur. Et je pense que, par exemple, il y a une scène emblématique, d'une certaine façon, de tout ce travail de réveil des époques successives. C'est le moment où le narrateur retombe peu après la mort de sa mère, il retrouve des affaires de son enfance et de sa jeunesse, et retombe sur une pellicule qu'il a faite développer comme pellicule à l'époque, mais dont il n'a jamais fait de tirage papier. Et beaucoup plus tard, un demi-siècle plus tard, tout d'un coup, il prend cette pellicule et il va la faire imprimer sur papier. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, la photographie devient emblématique de ce travail de la mémoire et de ce travail de l'écriture où une période ancienne revient dans une étrange intensité, puisque on peut revivre des moments de sa vie, soit par le souvenir, soit par procuration. Et je pense que le narrateur revit beaucoup de sa jeunesse par le personnage de cette jeune femme qui s'appelle Bijou et qui, d'une certaine façon, le renvoie à ses propres choix, à ses propres renoncements dans la vie. Parce que elle ne renonce à rien, elle ne renonce à rien de son appétit de vivre, de son appétit de découvrir et de son appétit de vivre autre chose. C'était aussi, je pense que j'ai toujours pensé que on avait beaucoup à apprendre de la jeunesse, que le roman de formation devait fonctionner aussi à l'envers. Et moi, au fond, j'ai fait partie d'une génération qui a été quand même très matérialiste, où beaucoup des gens qui réussissaient, réussissaient de façon matériel, avec l'accumulation, accumulation de biens, accumulation de pouvoir. Et tout à coup, j'entends, moi, aujourd'hui, une jeunesse qui veut s'inventer une autre forme de vie qui n'est pas faite de l'accumulation de richesses, mais qui est faite au contraire de l'affirmation d'expérience, de désir et d'épanouissement personnel.
Alors, Bijou est au centre de Neptune Avenue, mais... Le roman se passe donc en Amérique aujourd'hui. Il a des connotations post-punk grâce à cette Bijou, mais il a aussi des connotations politiques. Il est beaucoup question d'un certain Donald, vous l'aurez compris, même si son nom n'est jamais prononcé, on comprend bien qu'il s'agit de lui. Il est beaucoup aussi question de la révolte. La révolte, c'est un sentiment qui vous habite depuis longtemps. C'est un sentiment contagieux. C'est peut-être un sentiment qui vous a été transmis par l'amour de la littérature et par l'amour de la littérature italienne plus particulièrement, et par l'admiration, l'estime que nous avons tous pour un écrivain que vous avez tant aimé, Bernard Comment, que vous avez si admirablement traduit. Il s'appelle Antonio Tabucchi. Je vous propose de l'écouter. C'est une archive INA du 16 novembre 2004.
Moi, je me sens nomade, comme tout écrivain, je pense, parce que je pense que les écrivains, ils se sont un peu étrangers partout, mais pas c'est une idée assez pas trop originale. Si vous pensez à Baudelaire, quand dans l'Esplanade de Paris, il fait ce petit poème en prose admirable. C'est un dialogue, le petit poème en prose de l'Esplanade de Paris. Et donc il y a quelqu'un, une voix qui demande à quelqu'un qui passe. Est-ce que vous aimez votre patrie? Et il répond non, j'ai pas de patrie, j'ai pas de parents, etc. J'ai pas de racines, et j'ai pas de drapeau, etc. Et à un moment donné, la voix lui demande, mec, alors qu'est-ce que vous aimez? Et il répond d'une manière très poétique et très belle, j'aime les nuages. Les nuages. Quoi, les nuages pour un écrivain? Bon, je pense que finalement, pour quelqu'un qui écrit, la patrie, la véritable patrie est la langue dans laquelle écrit. Parfois, on choisit une langue différente de notre langue maternelle. Avec moi, ça s'est passé. Par exemple, j'ai écrit un roman dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle. Donc, je suis un alloglotte aussi en littérature. Mais, en effet, si je dois être sincère, mon appartenance à quelque chose, si on doit nécessairement appartenir à quelque chose, moi, j'appartiens à la langue italienne.
Ça veut dire quoi, appartenir à la langue italienne? Comme vient de le déclarer Antonio Tabucchi, Bernard Comment.
Ça veut dire qu'on peut voyager sans valise. C'est ça l'avantage d'une langue. C'est quelque chose qui vous pétrit, c'est quelque chose qui vous structure mentalement et qu'on peut emporter n'importe où et justement dans d'autres pays. Moi, de plus en plus, je pense que quand on ne s'est jamais senti étranger, quand on n'a jamais fait l'expérience d'être étranger, on n'a pas tout à fait vécu. Et c'est justement cette façon de se décaler dans d'autres langues, dans d'autres pratiques quotidiennes, qui vous permet d'avoir un niveau de conscience supérieur par rapport à ce qui vous façonne, à ce qui vous détermine, à ce qui vous constitue, et en particulier, évidemment, la langue, parce que la langue, c'est ce qui ordonne la pensée. C'est ce qui... Et d'ailleurs... moi, je sais que souvent, il y a des choses que je pense en italien ou des choses que je pense en anglais ou des rythmes que je cherche.
Vous rêvez en quelle langue ?
Je suppose que j'en rêve quand même en français, mais j'ai eu des rêves parfois en langue étrangère, oui. Et je crois que justement, Lui avait poussé la chose assez loin. Il y en a pas beaucoup des écrivains qui ont écrit dans une autre langue. Lui, il l'avait fait pour ce magnifique livre qui s'appelle Requiem. Et en tous les cas, si vous voulez, on parle toujours de langue maternelle. Je pense que devenir écrivain, c'est aussi donner un statut paternel à la langue, c'est-à-dire non plus un rapport de fusion, mais un rapport de conscience. Et l'expérience de la langue étrangère que beaucoup des plus grands écrivains ont menée, parce que c'est un passage indispensable pour se réapproprier sa propre langue à un autre niveau.
À la fin de Neptune Avenue, c'est votre grand-mère qui va clôturer ce livre. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Bernard Comment. Votre grand-mère qui était partie aux États-Unis pour être nurse d'enfants, qui avait donc parlé une autre langue, et ben il se trouve que à la fin de sa vie, elle ne parlait plus l'anglais.
Elle ne parlait plus qu'anglais, oui.
Elle ne parlait plus qu'anglais. Ouais, donc ouais. La langue et la nouvelle identité étaient sa seule identité à la fin de sa vie.
Absolument, mais vous savez, c'est une question complexe, moi, qui m'a toujours fasciné. C'est ce qu'on appelle le parler en langue dans les mystiques. Et il y a toutes sortes de témoignages de gens qui, dans leur délire, ou dans des moments d'extrême fatigue, ou à l'article de la mort, peuvent commencer à parler des langues. Alors là, c'est une langue qu'elle avait parlé, mais il y a parfois des gens qui commencent à parler des langues qu'ils n'ont jamais pratiquées. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement mystérieux et d'extrêmement attirant.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Bernard Comment, ça sera Nina Simone. Et pendant que nous allons écouter ce disque, eh bien, une des dernières auteurs, je souligne le « e » à la radio, Chloé Delhomme, que vous venez d'éditer, va nous rejoindre pour un livre qui s'intitule « Mes bien chères sœurs », quant à Nina Simone, c'est « Little Girl Blue ».
Sit there, count your fingers. What can you do? Little girl, you're through. Sit there, count your little fingers. Unhappy little girl blue. Sit there, count the raindrops falling on you. It's time you knew all you can ever count on are the rain. Fall on little girl blue. Ain't no use, old girl, you might as well surrender, 'cause your hopes are getting slender. Why won't somebody send
de chez les féministes hétéros qui se maquillent. Je serais volontiers restée chez les lesbiennes, mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut. J'ai été homosexuelle pendant 18 mois, un peu avant l'apocalypse de 2012. J'écrivais alors de chez les high femmes. C'est comme ça qu'on appelle les lesbiennes qui se maquillent et portent des escarpins. Bisexuelles, pansexuelles, sapiosexuelles, des mots pour dire le corps, je m'en fous. Mais merci, Chloé Delhomme, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes écrivaine. Vous publiez dans la collection de Bernard Comment, prestigieuse collection Fiction et compagnie fondée par Denis Roche, un livre formidable qui s'intitule « Mes bien chères sœurs ». Mais comment avez-vous pu accepter d'être publié par un alpha mâle?
Mais je pense pas que Bernard Comment soit un mâle alpha. Pour moi, c'est un allié plutôt. C'est quelqu'un qui me suit depuis longtemps maintenant.
Et il y a des alliés du côté masculin, rassurez-nous.
Oui, il y a des alliés du côté masculin, et c'est ces mêmes alliés qui sont tombés de l'armoire au moment de MeToo en découvrant à quel point les porcelets étaient parmi nous. Je crois que... Non, je ne suis pas misandre, je ne le suis plus tout du moins.
Alors vous êtes qui? Vous êtes une fille qui vous êtes réveillée bien avant MeToo, mais qui appelait un peu plus d'un an après MeToo à un réveil à la sororité dans un milieu féministe un peu déchiré.
Un peu déchiré, je pense que par la sororité, on peut faire corps. Non, ce qui est très important avec ce mouvement de MeToo, c'est qu'effectivement, toutes les femmes sont concernées, au-delà des militantes, deviennent actives, parce que c'est une révolution des mœurs. Des femmes qui, jusqu'à présent, ne se mêlaient pas de féminisme. Enfin, se rendaient pas compte, en fait, qu'il était nécessaire d'être active. Donc ça, c'était très important qu'on... Et puis, je suis dans un mouvement assez positif en ce moment. J'ai l'impression que ça peut paraître être une forme d'utopie, la fin du sexisme, mais ça avance. Je crois.
Alors, on parlait de la langue tout à l'heure avec Bernard. Vous travaillez la langue à la fois par ces espèces de torsions, de pulsations, d'incantations. La langue elle-même devient le support de votre déclaration d'amour pour une, non pas une revendication, mais une reconnaissance de notre sexe.
Oui, c'est plutôt ça. Disons que je travaille toujours mes textes vraiment de façon très précise sur la langue. Enfin, c'est vraiment ça qui m'habite habituellement. Là, je voulais être directe et frontale. Donc, j'ai travaillé en gueuloir comme d'habitude. Mais
ça veut dire quoi, en gueuloir?
Ça veut dire que s'il y a une phrase qui passe pas à l'oral, elle va à la poubelle. Tout le livre est travaillé. Mais celui-là, je l'ai travaillé comme un appel, donc particulièrement pour une forme d'oralité et de transmission.
Alors, vous voulez pas nous lire un petit extrait? Parce que vous êtes aussi performeuse, c'est-à-dire que vous faites partie de cette génération d'écrivains. Et là, je me tourne vers l'éditeur Bernard Comment. Cette génération d'écrivains qui a commencé à exister il y a une petite dizaine d'années, qui ne se contente pas de publier des livres et de les voir à l'intérieur des librairies, mais qui accompagne leur propre écriture. Ça se faisait beaucoup, justement, à New York, à l'aube des années 70. Ça a continué en 80, en 90. Encore aujourd'hui, où qu'on aille, à n'importe quelle heure, à New York, on peut trouver des endroits où des écrivains viennent dire leur texte. Et il y a toujours des gens, mais on est tellement heureux de les écouter, comme si l'écriture était corporelle. Et là, effectivement, Chloé appartient à cette génération où on va à la Maison de la Poésie à Paris, ou dans des endroits, dans des petits théâtres, ou dans des cafés, déclamer son texte. À quoi ça correspond, selon vous, Bernard Comment?
Je pense que ça, c'est effectivement une façon dont la langue française, la littérature française, à un moment donné, a relevé le défi qui était jusque-là souvent tenue par la langue anglo-saxonne, dont on croyait qu'elle était plus orale, qu'elle se prêtait plus à ça. Vous avez raison d'évoquer, ne serait-ce que la Beat Generation, la lecture de Hall par Allen Ginsberg a été un moment extrêmement important de mutation même de la littérature. Et c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, il y avait des gens en France déjà, mais une jeune génération s'est emparée de cette action, de cette langue en action qui se dit, qui se profère, qui se jette à la figure parfois des spectateurs dans un acte d'interpellation, mais qui suppose précisément un grand art du rythme, de la pulsation de la phrase. Et ça, c'est ce qui me fascine beaucoup chez Chloé Delhomme, c'est que au fond d'un substrat autobiographique qui aurait pu la conduire au silence, elle a réussi à tirer la matière d'une œuvre en travaillant et en s'appropriant complètement cette langue française et en faisant revenir des rythmes classiques dans une prose extraordinairement contemporaine.
Alors on vous écoute, Chloé Delhomme.
Oh, je crois que j'arrive pas à trouver, à isoler un petit passage. Je vais vous faire le chant des partisanes. C'est le chant des partisans revus. Mais je ne le chante pas, je le déclame. Copine, entends-tu le pouvoir de ce mot sur nos peines? Copine, entends-tu rire ce jour où ta vie vaut la sienne? Ohé, féministe, suffragette jusqu'au boutiste, c'est l'alarme. La sororité modifie le goût du sang et des larmes. Rangez vos canines, être sœurs, c'est plus qu'être camarades. Sortez les cisailles, les hashtags qui mitraillent les grillades. Ohé, harceleurs, priapiques, adipeux, courez vite. Ohé, prédateurs, attention, petit pourceau, ça retweet.
Pas mal.
Ta petite parodie en passant.
Alors, langue et sexualité, langue et revendication, langue et conscience de son corps, ça c'est des thèmes qui habitent vos deux textes, aussi bien celui de Bernard Coman que le vôtre, Chloé Delhomme. Et on a l'impression que le féminisme, même si vous, vous inventez une langue à partir justement de rythmes poétiques, il est loin le temps que vous évoquez dans ce dernier texte, mes chères sœurs, le temps où le féminisme pensait accoucher, et je pèse mes mots, d'une nouvelle langue. Et vous citez Monique Wittig, qui effectivement avait inventé non seulement une nouvelle langue, mais une nouvelle syntaxe, une nouvelle grammaire, un nouvel univers, etc., etc. Pourquoi ne pas aller encore plus loin, Chloé ?
Oh, parce que je crois que dans cette démarche-là, j'avais un besoin de non-expérimentation, en fait, pour une fois. Je voulais être la plus claire et la plus simple possible. Je garde pour mes autres objets plus littéraires des recherches compliquées. J'avais peur de pas être comprise si je prenais trop de chemins de traverse ou d'expérimentaux, en tout cas. Et la seule chose que j'ai pu faire à la fin, c'est l'allusion au pronom « yel » pour le « l » plus « il », qui est le maximum que je me suis autorisée en termes de bizarrerie, on va dire. J'ai essayé cette fois-ci d'être frontale.
Alors faites-nous des propositions concrètes, Chloé Delhomme, puisque manifestement vous vous y entendez.
En proposition concrète, par exemple, quand vous avez une assemblée de femmes où il y a juste deux hommes dedans, moi je sais que j'utilise le féminin l'emporte sur le masculin, par exemple. Ça peut être une possibilité. Après, essayer d'utiliser des tournures épicènes ou des choses comme ça. Enfin, la langue française a tendance à être malheureusement assez sexiste. Et en même temps, nous avons remporté une grande bataille. Il y a un mois, le fait qu'autrice soit rentrée à l'Académie française.
Ça n'a pas été sans mal, mais ils y sont arrivés.
Mais champagne de mon côté, quoi. C'était vraiment la fête. Donc, il y a ça. Le pronom liel me semble intéressant. Et sinon, c'est plus un rapport au comportement qu'à la langue elle-même aussi, où je pense qu'il faut être vigilante. J'ai par exemple la pratique du badaboum, qui est en cas de proposition, enfin d'injection sexiste dans une pièce, au lieu de monter sur vos grands chevaux et de passer pour une énième fois pour une hystérique, malheureusement, on sourit et on dit badaboum. Et en général, la personne se rend compte qu'elle a complètement merdé.
C'est pas mal.
C'est une solution.
On va l'adopter.
Essayons.
N'avez-vous pas observé que chez certains écrivains hommes, il en existe encore, cher Chloé
Delhomme ?
Beaucoup,
nous ne sommes que 30% de femmes dans cette profession.
Oui. Et ils sont beaucoup publiés, mais vous voyez, vous avez un éditeur, je ne sais pas si on peut le considérer comme féministe, se considère-t-il comme féministe ?
Oh, ça, ce serait prétentieux de ma part. Ce qui est sûr, c'est que cet événement de MeToo, comme homme, forcément vous secoue, parce que moi j'ai toujours prôné la parité, enfin beaucoup de choses, mais l'événement MeToo, la lecture d'un livre comme celui-là, nous rend aussi conscients d'à quel point le monde est structuré en termes de domination masculine et à quel point il est très difficile d'en sortir. Donc moi je trouve que c'est extraordinairement salutaire et que il y a un militantisme féministe qui est indispensable, mais il y a aussi une prise de non seulement une prise de conscience, mais une une forme d'action, d'agir chez l'homme qui doit profondément se transformer. C'est-à-dire que la transformation féministe, elle doit aussi passer par une contribution masculine pour sortir de très très vieilles habitudes très profondément ancré.
N'avez-vous pas observé, Chloé Delhomme, que votre éditeur, qui est aussi écrivain depuis longtemps, avait lui aussi un peu changé à l'intérieur de son univers littéraire et prenait comme héros uniquement des héroïnes ? C'est-à-dire que l'instillation de la revendication, de la reconnaissance de l'égalité homme-femme peut rentrer aussi au cœur d'un imaginaire et d'un désir de transcrire son propre imaginaire par des mots.
D'autant que le personnage de Bijou est un personnage vraiment féministe à mon sens, extrêmement libre. Et moi, à la fin du livre, je lui disais tout à l'heure, j'étais un peu triste, parce que c'était un, alors que la fin est une grande émancipation et une grande prise de liberté. Mais oui, mais de toute façon, je ne me laisserai pas éditer par quelqu'un qui ne me correspondrait pas, donc...
Ne plus avoir peur de rien désormais, puisque unis, le patriarcat s'effrite, qui sont vraiment ces hommes qui nous maintiennent à genoux ? Observez bien l'espèce nommée Baby Boomers, à droite la main de ma sœur dans la culotte du zouave, à gauche les barricades cimetières des éléphants, bientôt à la retraite, les derniers mâles alpha courent après l'infirmière en déambulateur, d'ici une décennie tout sera modifié, entre-temps chaque jour faire face à leurs pulsions en se dressant en groupe, rien n'est plus efficace que l'intimidation. Ça marche vraiment ?
Oui, moi je crois. Enfin en tout cas ça fonctionne dans mon quotidien, dans celui de mes amis, donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas pour tout le monde. Il faut être unis, c'est ça le truc. Ce qui est difficile, c'est que on a le plafond de verre, on a beaucoup de choses où les femmes en fait sont rivales entre elles, et c'est aussi cette rivalité qui empêche un féminisme actif de voir le jour. Donc je pense qu'il est vraiment nécessaire maintenant de neutraliser nos pulsions de jalousie, d'envie, de terreur de l'autre aussi beaucoup, parce que la femme est précaire en sa place, et c'est pour ça qu'elle est sur la défensive avec ses frangines, et réussir à faire une union horizontale, parce que ce qui est beau avec la sororité, c'est que c'est pas un rapport pyramidal, un rapport vertical, un rapport de pouvoir, c'est un rapport égalitaire.
Bernard Comment, le livre de Chloé Delhomme se termine par le poème et la récitation « Je sororise » à se réciter tous les soirs avant de s'endormir, particulièrement pour les mâles alpha. Mais votre livre est dédié à votre mère. Du personnage de la mère, il est beaucoup question. Du personnage de la grand-mère, mère de votre mère, il est aussi beaucoup question. Pourquoi ?
Sur ma mère, c'est un peu compliqué de répondre. Je pense que c'est un sentiment assez profond que j'ai eu. Ma mère est âgée, elle est très âgée, elle vit encore. Et d'une certaine façon, avec ce livre, j'ai fait un travail du deuil qui précède la mort.
Et ça existe.
Le livre est là. Je sais que
l'écriture peut être le véhicule.
L'écriture est une façon de se préparer dialectiquement à quelque chose qui ne l'est pas. Et je pense que ça a été le cas, c'est-à-dire que j'ai écrit ce texte dans l'atmosphère d'un deuil accompli. Et quand j'ai fini de l'écrire, ma mère, qui est toujours très gentiment attentive à ce que je fais, m'a demandé à lire le manuscrit. Et à ce moment-là, j'ai eu une gêne à le lui donner, en me disant qu'elle allait peut-être mal prendre la position qu'elle a sienne dans ce roman. Et elle l'a lu avec beaucoup d'enthousiasme. Elle m'en a beaucoup parlé, de plein de choses, de plein de détails, sauf d'elle-même et de sa position dans le livre, ce que j'ai trouvé très élégant.
Et je n'oublie pas que vous êtes aussi l'éditeur du livre admirable de Roland Barthes, Journal de deuil, qui est entièrement dédié à sa mère et qui est un livre extraordinaire. Merci infiniment Bernard Comment pour ce très beau livre qui s'intitule Neptune Avenue et qui vient d'être publié chez Grasset, parce qu'évidemment les éditeurs ne s'auto-publient pas, il faut le préciser. Et puis Chloé Delhomme, édité par Bernard Comment dans la collection Fiction et compagnie. Mes bien chères sœurs, et avant que nous écoutions Eau pour bateau, on va se quitter en écoutant votre voix, n'importe quel fragment de votre nouveau livre, Chloé Delhomme.
Sororité, communauté de femmes ayant une relation, des liens, qualité, état de sœur. L'important, c'est de comprendre qu'en oubliant que ce mot existe, les femmes ont perdu le concept avec. de même que pour les hommes qui les regardaient. Sororité, ça voulait dire les femmes deviennent une caste, une classe, plus dangereux que le communiste à l'échelle internationale, un incendie dans chaque foyer. Aucune révolution ne fera tomber le gland de la phallocratie. On peut tuer le roi et dénoncer son frère, mais la bite on touche pas, sauf si papa demande.
C'est haut comme Olivier Marguerite, ce bateau qu'on entend en ce moment. Merci à Fabrice Desmas qui était à la technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert, à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard, Pierre Dindy et Lilian Allôme qui a réalisé comme chaque soir cette émission. Et bien sûr, comme chaque soir, nous avons rendez-vous avec Mischka. Pas mal hier soir, vos voix féminines. Ah bah, on continue ?
Oui, ça vous allez me dire que je radote, c'est encore des femmes ce soir.
Vous radotez un peu, mais c'est très bien. Vous voyez, vous c'est êtes dans style. La tonalité de l'émission. Oui, toutes les façons, oui, avec Chloé Delhomme, vous n'aviez pas intérêt à passer des hommes ce soir. Donc, on vous écoute. À tout à l'heure, Mischka.
À tout à l'heure.